Le magazine Femina de VOA Afrique.
Avez-vous facilement accès à la littérature et aux manuels scolaires et universitaires? Quelle visibilité pour les jeunes auteurs et les écrivaines? Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ce sont les questions qui vous ont été posées sur le Facebook de VOA Afrique. Et nous allons donc développer un peu cette question avec trois invités, dont un avec moi dans le studio ici à Washington. Emmanuel Bamba, vice-commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre 2017 pour l'Amérique du Nord. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour, merci Nathalie de nous avoir sur ce plateau.
Alors, nous avons également en ligne à Conakry l'écrivaine guinéenne Binta Anne, auteure du roman à succès Le mariage par colis aux éditions L'Harmattan, entre autres recueils dénonçant les injustices faites aux femmes et aux enfants. On peut citer notamment La petite mendiante et Les enfants soldats. Bonjour Binta, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Nathalie, merci de m'avoir invitée.
Alors on change de continent, hein. On est ici aux États-Unis, nous voilà maintenant à Conakry, le continent africain. Maintenant on passe sur l'autre continent, tiens, on va avoir quelqu'un à Bordeaux, également en ligne en France, la biographe Elisabeth de Gond. C'est ça qui est merveilleux, hein. On peut vraiment converser avec tout le monde sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui. Donc Elisabeth de Gond, auteure de la première et unique biographie de l'écrivain guinéen Feu William Sassine, publiée en décembre 2016 aux éditions Cartala. Elisabeth, merci beaucoup d'être avec nous.
Ah, c'est un grand plaisir de pouvoir converser effectivement entre Conakry, Washington et Bordeaux et de parler du livre et de Sassine tout particulièrement.
Ouais.
Je vous remercie de m'avoir invité.
Alors, je reviens tout de suite vers Binta Anne, hein, qui est également membre du comité d'organisation de Conakry, capitale mondiale du livre 2017, qui est également professeure d'anglais au lycée français à Conakry et fondatrice d'une ONG qui justement fait du soutien scolaire pour les enfants et de l'alphabétisation pour les femmes. Alors Binta est également une militante pour plusieurs causes, contre l'excision, le mariage forcé. Alors Binta, vous avez par exemple La petite mendiante, hein, je sais que ça a été, ça fait l'objet d'une pièce de théâtre, je pense, montée par l'UNICEF. Et vous êtes actuellement dans un projet de littérature enfantine, une collection de pourquoi sur les droits de l'enfance. Alors pourriez-vous nous dire un petit peu finalement si pour vous tout ça c'est facile ou s'il faut quand même un petit peu se bagarrer pour y arriver?
Merci beaucoup Nathalie. Comme tout combat, et celui-ci là aussi n'est pas facile. Mais c'est pas pour autant on baisse les bras. Je me suis lancée dans la littérature enfantine et scolaire ces derniers temps parce que j'ai vu que il y a un manque. Les enfants manquent des bases dans le niveau scolaire et puis dans la vie réelle aussi. On se pose beaucoup de questions. Les enfants se posent beaucoup de questions, mais certains sujets restent tabous, pas seulement dans ma culture, mais un pays que je connais, dans la tradition, en tout cas africaine, certains sujets continuent à rester tabous. Donc c'est une série de livres sur les différents pourquoi je dois me laver les mains, pourquoi je dois aller à l'école, pourquoi je dois pourquoi il y a... C'est pourquoi que j'essaye en me mettant dans la peau d'un enfant pour pouvoir répondre et en utilisant le grand-père. Parce que dans la culture traditionnelle africaine, avant, ce sont les sages qui nous répondaient. C'est eux maintenant qui... La nouvelle génération, c'est l'Internet. On a besoin de quelque chose, on va faire une recherche. Mm-hmm. Mais l'ancienne génération,
Internet.
Carrément les sages du village, c'est le grand-père, la grand-mère. C'est eux. On partait vers ces sages pour poser des questions, pour trouver des réponses. Mm-hmm. J'ai mis ça là sur scène et pour pouvoir expliquer un petit peu les difficultés que les enfants ont à trouver des réponses à leurs questions.
Le retour aux sources, hein, vers les choses anciennes qu'on aimait beaucoup et qui disparaissent petit à petit, effectivement. Alors, Elisabeth de Gond est également présidente de l'ONG Lire Autour du Monde. Alors, elle fait un petit peu des joutes de lecture, hein, c'est des jeunes qui lisent des auteurs. Et elle a le projet de monter des bibliothèques. Hein. Donc, Elisabeth, ce projet-là, monter des bibliothèques, mais dans quel pays en particulier ? En Afrique ou ailleurs ?
C'est plutôt lié à mon expérience de bibliothécaire. J'ai travaillé en Guinée pendant 3 ans sur des projets de montage de bibliothèques et de gestion de bibliothèques. Et donc l'association a été créée, Lire Autour du Monde, pour essayer de soutenir des projets de bibliothèques, tout particulièrement en Afrique, parce que c'est un continent dont je connais 2 ou 3 pays et où je sais que les besoins de lecture sont très grands. Moi, je pense qu'effectivement... le téléphone, maintenant les nouveaux supports sont importants, mais je reste convaincue que la lecture avec des livres peut encore avoir beaucoup de succès et peut aider. Enfin, je pense que développer le plaisir de la lecture, c'est important pour donner envie de se cultiver, envie de voir ailleurs, de connaître, de se développer, etc. Donc oui, mon projet, en tout cas, serait de soutenir... ces bibliothèques, et j'ai aidé une amie qui s'appelle Marie-Paul Houet, qui a été bibliothécaire comme moi et qui a monté des défis lecture à Conakry. Mmh. Donc on a essayé de les soutenir financièrement. Les défis littéraires, ce sont des joutes lecture entre des élèves de différentes écoles, et puis chacun se pose des questions à l'autre pour savoir qui a bien compris le texte, et on continue par différentes différentes étapes jusqu'au à la classe gagnante, celle qui remporte le mais je n'ai pas les chiffres exacts, mais le nombre de lecteurs est extrêmement important. Il y a plus d'entre 10 et 20 classes qui ont participé.
Ok, alors à propos, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de votre livre, parce qu'il est vraiment formidable, ce livre. Il fait renaître complètement William Sassine, hein, pour ceux qui l'ont connu. C'est très joliment écrit, c'est beaucoup de talent, on espère. Moi j'attends avec impatience un prochain recueil finalement aussi d'Elisabeth Degon. J'en profite pour lire un petit extrait, parce que je reviens sur ce problème qu'ont les auteurs, hein, de se faire publier, non pas seulement de se faire publier, mais finalement de se faire connaître aussi, hein. Donc ça, c'est un petit passage de votre livre. Lorsque William Sassine était à un salon en France, je crois, alors vous dites: qu'attend-il de ses présentations? Une rémunération, très certainement. On sait combien la vie matérielle des écrivains est difficile, celle de Williams tout particulièrement. Jusqu'alors, les écrivains invités à se présenter dans des salons, bibliothèques, écoles ne sont pas rémunérés pour leurs prestations. L'organisateur, considérant que la promotion de l'auteur est sa récompense. Un budget peut dédommager les personnalités et auteurs de best-sellers, rarement les auteurs confidentiels, comme c'est le cas de Williams. Maintenant, je me tourne vers Emmanuel pour savoir un petit peu justement dans quelle mesure finalement cet événement va-t-il contribuer finalement à l'accès aux livres et à la renommée pour les auteurs, notamment les femmes et les jeunes écrivains. Comment vous allez vous y prendre ?
Merci beaucoup, Nathalie. C'est une question importante. Je ne peux certes pas répondre peut-être totalement à cette question, mais ce que nous faisons avec tout le comité d'organisation de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est effectivement vulgariser l'accès aux livres dans la République de Guinée. Et pour ce faire, depuis 2008, les acteurs principaux de Conakry, capitale mondiale aujourd'hui, animent ce qu'on appelle les 72 heures du livre, qui sont une célébration dans le sens de promouvoir les auteurs, la littérature, la culture guinéenne, et donc d'attirer les jeunes vers la lecture, d'attirer la population vers la lecture.
En général, oui.
En général. Donc, disons que tous ces efforts, de façon concertée, amènent à l'amélioration des conditions des écrivains, parce que qui parle de lecture parle de livres, et qui parle de livres parle d'auteurs. Donc ces livres de ces auteurs sont achetés, acquis pour meubler les bibliothèques, et éventuellement ces livres peuvent se trouver aussi dans les mains des jeunes, des étudiants et de tout lecteur. Donc de là un soutien aux auteurs. Et puis l'acteur principal de Conakry, capitale mondiale du livre, M. Sansi Kaba, qui est le directeur de l'Harmattan Guinée, est depuis 10 ans déjà en train de vraiment travailler très fort pour ne pas que, par exemple, les auteurs guinéens partent ailleurs pour se faire éditer et tout ça. Donc, je pense que tous ces efforts combinés contribuent au développement et à l'essor de l'auteur de la littérature, de la culture guinéenne.
Restez bien tous avec nous. Dans un petit instant, on va prendre un auditeur en ligne.
Parole de femme.
Voilà, je vous propose à présent d'écouter Jocelyne Kajangou, écrivaine congolaise, dans une interview d'Hortense Assaga pour l'émission Entre les lignes d'Africa 24.
C'est le seul moyen que j'avais au fait de m'exprimer aussi, de prendre part à tout ce qui se passait autour de moi. C'est le seul moyen que j'avais. Je ne pouvais pas prendre les armes, je suis contre la guerre, mais je pouvais quand même interpeller les hommes et je me suis mise à écrire. Je n'ai pas été éditée tout de suite parce que, bon, à Bukavu, ce n'est pas évident. Je suis allée vivre à Kinshasa et là-bas, j'ai rencontré un éditeur. Mon recueil s'intitule « Pas seul sur terre ». Donc, c'est un recueil qui comprend 14 textes, qui aborde différents sujets, la question de la femme, de l'enfant, de leurs conditions pendant ces moments de guerre. Donc voilà, c'est une façon de dire aux dirigeants, ne circonscrivez pas le monde à vous. Voyez toutes ces populations qui souffrent parce que vos décisions, souvent, vous les prenez, on ne sait comment. Et moi, je suis contre la souffrance. Voilà, donc la souffrance qui touche l'autre me fait mal aussi. Donc je me mets à sa place et je me dis pourquoi il doit subir ça. Ce n'est pas juste. Bon, je crois que le gouvernement devrait aussi s'impliquer parce qu'on remarque que l'on fait souvent la promotion des artistes musiciens mais pas tellement des écrivains. Voilà. Donc on pourrait par exemple créer des concours littéraires, encourager les élèves pour promouvoir la littérature. Ça pourrait faire avancer les choses.
Voilà, c'était un extrait de l'émission Entre les lignes d'Africa 24 dans laquelle s'exprimait l'écrivaine congolaise Jocelyne Kajangou. Et nous allons prendre un auditeur maintenant en ligne, Oscar Djossou, qui est au Bénin. Oscar, comment ça va ?
Ça va bien, madame, et chez vous ?
Ça va très bien, on vous écoute.
Oh, d'accord, la situation est vraiment déplorable au Bénin parce que la jeunesse aujourd'hui ne se donne plus à la lecture. Et la lecture ne constitue plus quelque chose de choix dans notre activité ici. Ils sont laissés au mépris des salles de jeu, aux salles de cinéma ou les réseaux sociaux. Et cela s'explique par plusieurs facteurs, du fait que les bibliothèques aussi qui existent et on n'arrive pas à avoir d'accès si facile. Et ça fait un. Les auteurs aussi ne s'inscrivent plus en tant que tels, à part certains anciens tels que Jean Priat ou Paul Rasmé qui avaient écrit. Et on n'arrive plus à retrouver aussi les livres des nouveaux auteurs en tant que tels. Ça coûte souvent cher. Et de plus aussi, dans nos collèges avant, on avait l'habitude de faire la promotion des auteurs béninois qui ont écrit des livres, et c'est ça, ils intègrent dans les programmes. Donc on a constaté que depuis 1990 ou les 80, seuls les auteurs qui ont écrit dans cette période-là, seuls leurs livres continuent d'être au programme jusqu'à nos jours. Cela n'encourage pas les jeunes à s'initier de plus loin.
Merci beaucoup, Oscar. Je voudrais avoir peut-être un commentaire ou une réaction de Binta Anne, l'auteur guinéenne. Binta Anne, vous êtes ici, on vous écoute. Qu'est-ce que vous voudriez dire par rapport à ce que vous avez entendu ?
Je suis d'accord avec lui, les jeunes ne lisent pas beaucoup, mais peut-être ne lisent pas beaucoup les livres, mais ils lisent ce qui correspond à leur génération actuellement. Ils lisent beaucoup sur les écrans, les téléphones, les iPads. Ils utilisent beaucoup la nouvelle technologie pour lire. On veut encourager également la lecture avec les livres aussi pour pouvoir, parce que ça tend à disparaître dans certains endroits, mais je pense que c'est un combat commun. Ce n'est pas seulement, on dit, l'État, ou ce n'est pas seulement voilà, les écrivains. Même si nous ne sommes pas valorisés comme il le faut, la façon dont on rend hommage aux autres artistes, les écrivains ne connaissent pas cette même promotion. Mais c'est à nous aussi, nous sommes la conscience du monde, et particulièrement de l'Afrique. Nous sommes les hommes de lettres. C'est à nous maintenant de montrer que nous valons cette place que nous voulons obtenir, que nous voulons occuper. Donc c'est très important aussi que nous ne restons pas dans notre petit monde silencieux et en disant « Ah, on n'est pas valorisé » et puis ça reste là. Mmh. Il faut que la seule arme que nous avons, c'est la plume. Mmh. Et il faut écrire, il faut continuer, non seulement dénoncer, mais apporter aussi des solutions, mais éduquer surtout, mmh. enseigner, sensibiliser. Nous devons avoir une plume aussi sociale, nous devons avoir une plume éducative, pas seulement, voilà, parce que souvent on a tendance à dire quand on parle des écrivains, oui, alors ils sont là, ils dénoncent, ils ne trouvent pas des solutions, mais nous devons tout faire en même mmh. temps, mais pas seulement en restant dans notre petit coin. Donc il faut vraiment que nous soyons engagé.
Merci beaucoup Binta, restez avec nous. J'en profite pour revenir hein, sur la biographie de William Sassine, hein, écrite par Elisabeth Degon. Très très beau livre. Et puis on peut peut-être faire une petite parenthèse d'humour. Hein. Encore un passage dans son livre, Saïdou Bokoum raconte. Un convoi pour voir sur place l'état de la scolarisation de la jeune fille. Nous pénétrâmes le Tupolev Made in PDG, hein, comprenez le parti du président de l'époque, par la soute. L'avion fumait-il déjà ? C'était le système de climatisation. On n'y voyait plus rien. Le pilote lui seul savait où on allait. Après une demi-heure de charivari roulant, je m'inquiétais auprès de Sassine, mon voisin. Mais où va-t-on ? Et Sassine de lui répondre, à la baie, par la route, mon cher. Voilà, c'est très guinéen comme humour. Et voilà, ça c'était le style de William Sassine, en tout cas son humour. Donc Emmanuel, s'il faut faire un petit bilan de ce que vous avez entendu jusqu'ici, est-ce que vous pensez que par exemple pour améliorer hein, le taux d'alphabétisation en Guinée, cet événement va vraiment apporter quelque chose ? Est-ce qu'il y a des événements vraiment qui vont se prêter à ça, pour notamment pour les femmes en particulier ?
Oui, merci encore Nathalie. Je pense que ce que nous faisons à travers l'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre, déjà, c'est une plateforme, c'est un cadre qui se prête à l'appui, n'est-ce pas, au développement de l'accès aux livres, à la littérature, à la lecture. Pour parler vraiment des femmes, par exemple, déjà le comité d'organisation, il y a dans le comité beaucoup de femmes. Déjà. Il y a une vice-commissaire qui est une femme. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'ambassadrices. Je peux citer quelques-unes.
Des écrivaines aussi. Vous...
Ouais. Voilà, nous avons l'écrivaine Binta Al. Ouais. Et puis nous avons beaucoup d'autres écrivaines guinéennes. Donc, je pense que le fait qu'on vulgarise l'accès aux livres, à la littérature en organisant ces événements, ça met le livre au premier plan, ça donne au livre, à la littérature, une place beaucoup plus importante pour un peu jalouser, si vous voulez, le sport et la musique. Parce mm-hmm. que ces deux éléments de la culture sont beaucoup plus mis à l'avant ouais. mm-hmm. que la littérature. Mm-hmm. Donc, déjà, avec le comité d'organisation de Conakry Capitale Mondiale du Livre, il y a une politique du livre qui est en train de se définir, qui se met en place avec l'aide du gouvernement, le Parlement. Et donc, il y a des progrès mm-hmm. qui se font et qui, je dois dire ici, aident à l'accès mm-hmm. pour la jeune femme, pour la jeune fille, disons, les femmes, mm-hmm. aux livres mm-hmm. et à la littérature.
Oui, en effet, puis il y a une nouvelle donne aussi mm-hmm. avec Internet, parce que Internet, c'est bien et c'est pas bien. C'est mm-hmm. toujours un outil qu'il faut utiliser intelligemment, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est bien pour la lecture, parce que logiquement, mm-hmm. on a plus d'éléments à lire, n'est-ce pas, sur cet outil formidable. Il reste à savoir l'utiliser raisonnablement. Elisabeth, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur cette question-là ? Comment vous le sentez, vous, finalement, actuellement, en Afrique ? Est-ce que vous pensez que vraiment, les femmes ont vraiment besoin de lire plus, ne serait-ce qu'au niveau éducation ? Par exemple, moi, je pense à la femme au foyer. Hein. La femme au foyer, qui n'a pas forcément eu une éducation scolaire, voilà, qui sait lire, est-ce qu'elle peut facilement avoir accès, selon vous, à la littérature ?
Et je voudrais dire, donnez-leur des livres et ils liront. Le problème étant de trouver ces livres et de les mettre à la portée des lecteurs. Oui. Ça veut dire aussi beaucoup d'éducation pour pouvoir lire couramment et avoir plaisir à lire. Ça veut dire découvrir des textes attractifs qui vous font envie, qui vous font rêver. La lecture, c'est ça, c'est l'évasion, c'est l'ouverture à l'autre, mais ça demande une pratique. pratique, ça demande une bonne scolarisation pour les élèves, mais je pense que, mais comme tout un chacun, quand on goûte au plaisir d'un conte, d'une histoire, on a envie d'y revenir. D'ailleurs, autrefois, les contes étaient des contes oraux. Maintenant, on va plutôt vers l'écrit. Mais je pense qu'il faut diffuser. C'est le problème est que le livre est très cher. Il était très cher. Facile se plaignait que de pas être lu parce que ces bouquins étaient trop chers pour les Africains. Et ça reste un problème de fond.
Absolument.
L'existence des bibliothèques reste un problème de fond.
Voilà, ça effectivement, hein, plusieurs auditeurs l'ont écrit, le livre est cher, on revient toujours là-dessus. Les bibliothèques, quand il y en a, on ne trouve pas forcément ce qui nous intéresse dedans au niveau universitaire notamment.
Entre parenthèses.
Le décès du réalisateur guinéen Fantamadi Camara, qui s'est éteint le 7 janvier à Paris, a bouleversé le monde de la culture. Sa renommée internationale ne lui aura pas épargné la galère pour produire son dernier film, Morbayassa. Après une vingtaine de prix remportés dans le monde pour son premier long métrage, Il va pleuvoir sur Conakry. L'expert en culture et rédacteur en chef de Lynx FM, Azoukaba, se souvient de l'ardent défenseur du cinéma africain, non sans déplorer le manque cruel de subventions dont souffrent les réalisateurs du continent.
C'est une grosse perte pour le cinéma guinéen parce que Cheikh Fantamadi Camara, au-delà d'être réalisateur cinéaste, était aussi dans la formation de ces jeunes étudiants à l'Institut des Arts de Guinée de Dibrika. Et il avait beaucoup d'autres projets cinématographiques. Malheureusement, il est mort à la fleur de l'âge sans avoir parachevé tout ce qu'il avait comme ambition pour le rayonnement du cinéma guinéen.
Il avait commencé en 2010 son second long métrage Morbaya. Il lui a fallu, je crois, quasiment 5 ans pour pouvoir le réaliser, faute d'argent. Il a même dit « Je ne savais pas que j'allais souffrir autant dans mon deuxième long métrage ». Alors, qu'y a-t-il à dire, là, finalement, sur le fait que le cinéma africain est difficilement promu par les gens qui pourraient le faire, hein? Ça demande beaucoup d'argent, n'est-ce pas ?
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une inauguration d'une salle Olympia de cinéma qui va prendre 300 places. Mais quand vous vous promenez en Conakry, toutes les anciennes salles de cinéma ont été transformées en magasins, en boutiques. C'est vraiment un peu révoltant qu'un pays qui a des cinéastes comme Cheikh Fantamadi, Cheikh Doucouré ou Mohamed Camara, que sais-je encore, des grands noms, que ce pays ne puisse pas avoir une structure qui subventionne le cinéma. C'est vrai qu'il y a un office national du cinéma et de la photographie en Guinée, mais cet office n'a pas un budget conséquent. Les États africains devraient faire en sorte que le cinéma puisse bénéficier des subventions.
Justement, hein, Fantamadi Camara était un grand défenseur du cinéma africain. Ben, il est parti, donc avec lui, hein, c'est sa voix qui est partie. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes cinéastes guinéens ont cette réelle volonté finalement de se battre pour avoir leur place dans la société, pour que leur travail soit reconnu ?
Oui, disons quand même que avec la création de l'Institut supérieur des arts de Guinée, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont inscrits dans la filière cinéma et qui, malgré tout ce que j'ai énuméré comme difficultés, il y a une nouvelle génération qui est en train de se battre. Il y a une maison du cinéma qui a été créée à Conakry où ces jeunes artistes, ces jeunes auteurs se retrouvent pour discuter de leurs problèmes, pour débattre de l'avenir du cinéma guinéen. Donc, ils sont en train de se préparer pour voir comment rendre un hommage mérité à Cheikh Fantamadi Camara et comment faire en sorte que le cinéma guinéen renaisse de ses cendres.
Voilà, c'était notre confrère Azoukaba, rédacteur en chef de Lynx FM à Conakry. Je suis désolée pour Richard Zongo et Diarra Kanyoumé. On n'aura vraiment pas le temps de les avoir, de leur parler aujourd'hui. En revanche, on les remercie évidemment, on remercie tous nos auditeurs. Je voudrais qu'on termine avec Emmanuel qui a justement à parler d'un projet de bibliothèque en Guinée, n'est-ce pas Emmanuel ?
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. En tant que comité d'organisation de Conakry, capitale mondiale du livre ici en Amérique du Nord, nous avons lancé un projet de collecte de dons, dons en nature et dons financiers pour construire une bibliothèque ou des bibliothèques à Conakry. Pour faire des dons, vous pouvez aller sur notre page Facebook ou bien sur notre site web qui est conakrycapitalemondialdulivre.com dans le cadre de faciliter donc l'accès aux livres pour la population.
Elle est très courte cette émission, on arrive à la fin. Merci, un grand merci à tous, aux auditeurs, à tout le monde. Au revoir.
Arrête.
good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise.
À tous mes frères, sœurs, à mes pères, mères, à tous les êtres. Plus précis, mon message est promis à ceux qui souffrent. Ça, c'est ma première fois de mettre ma voix sur cette voie en vue qu'on me voit. C'est l'un de mes textes les plus complexes, sans versification, mais un super texte. Chacun peut, à travers, traverser des temps différemment difficiles. La vie est pénible comme l'asile, les faces, elle n'est pas facile. Reste fort et respire encore. Il y a des choses qui nous posent des propos qu'on doit oser. On doit y penser, y assumer. On sait que les gens les plus forts sont souvent les plus sensibles. On sait que les gens les plus aimables sont souvent les plus blâmables, les plus contestables. On sait que ceux qui s'occupent des autres, qui prennent soin de l'autre, sont ceux qui souhaitent souvent du soin. On doit croire, il faut croire et toujours croire. Je crois que les choses les plus dures à dire sont trois à ce que je vois. Je t'aime, je suis désolé. Tu m'aimes, Il n'est pas facile, il n'est pas facile d'aimer, de déclarer ses sentiments d'amour, d'avouer ses désolations. Il n'est pas facile, il n'est pas facile de demander d'aide.